Alors on est, Rachel va s'occuper de la relation, de la rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ça fait 34 ans qu'ils ne se sont pas vus. Yaakov était 14 ans chez Shem Hever, ensuite 20 ans chez Laban. Donc ils se rencontrent après 34 ans. La raison pour laquelle ils ne se sont pas vus, c'est que, comme vous vous souvenez, Yaakov avait dû fuir la maison paternelle parce que Rivka avait entendu que Esav avait le projet de le tuer. Mais son projet, le projet de le tuer, en fait, Esav avait dit qu'il le tuerait, mais il ne le tuerait pas du vivant du père, pour pas faire du sard à son père. Mais après, on voit que il a quand même envoyé Eliphaz pour le tuer. Donc, est-ce qu'il a changé d'avis? Mais ce qui est intéressant, c'est que Eliphaz a tué officiellement Yaakov. Il l'a tué économiquement, comme on a vu. Mais Yaakov considère que il a encore peur. Il considère que Essav lui en veut encore et qu'il veut toujours le tuer. Et pourquoi est-ce que Essav voudrait le tuer? Ça veut dire c'est pas suffisant qu'il l'ait tué économiquement, il veut le tuer physiquement aussi. Ou en tout cas, ils ont a priori A priori, on peut penser que ça veut le tuer, mais de facto, quand ils vont se rencontrer, il va se passer quelque chose parce que Essav, il ne veut pas le tuer. Ou plus exactement, quand ils vont se rencontrer, bon, c'est un scoop, hein, ça vient seulement un peu plus tard, mais quand ils vont se rencontrer, ils vont tomber Essav, il va prendre Yaakov dans ses bras. Et ils vont toujours s'embrasser, probablement. Et il y a un Hazal qui dit que Esav, il a essayé de mordre Yaakov beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, il va le tuer, quoi. Seulement, à ce moment-là, le coup de Yaakov est devenu aussi dur que du marbre. Et du coup, Essav, il a dû se faire refaire un dentier. C'est pour ça, certains disent que dans le passage, c'est marqué que ils se sont embrassés au sens de pris dans les bras, etc. Et puis ensuite, ils ont pleuré. Alors la question, c'est, chacun d'entre eux pleure pas pour la même raison. Alors certains disent que Esav, il pleure ses dents. Et Yaakov, il pleure parce que il comprend que les descendants d'Esav vont détruire le Beth Amikdash, quoi. Ils vont nous envoyer en galoute, etc. Donc c'est pour ça qu'il pleure quand il le rencontre. Mais comme vous savez, par la suite, Esav va dire à Yaakov, il va lui proposer de faire un bout de chemin ensemble. Yaakov va refuser. Yaakov, il veut pas de contact avec lui. Il va lui faire encore un autre petit mensonge. Il va lui dire, on se rencontrera. Il est jamais allé là-bas où il avait dit qu'il allait se rencontrer. Alors, comme toujours, la Torah, elle vient pas me raconter. Vient pas me donner des éléments de la biographie de Yaakov. La Torah, c'est un enseignement. Et l'enseignement, il est pour nous, il est un enseignement valable toutes les générations. Et ça, il représente tous les peuples. La tradition, elle est qu'il y a 70 peuples. Mais au-dessus de ces 70 peuples, il y a un couple qui s'appelle Ésav et Ishmaël. Et eux, ils sont en quelque sorte, ils représentent, à eux deux, ils représentent tous les peuples. Et dans le couple, on dit Ésav et Ishmaël. Bien qu'Ishmaël soit le beau-père d'Ésav, donc si on avait appliqué la chronologie, quoi, quelque part l'ordre de grandeur, enfin, Ishmaël, on devrait dire Ishmaël et Ésav. Mais en fait, c'est Ésav qui est dominant. Peut-être pas tout le temps, mais dans l'essentiel, c'est Ésav qui est dominant. Mais ils vont ensemble, ils forment, ils sont ensemble, ultimement, les ennemis d'Israël, en fait. Il y a des psoukim qui parlent des deux, et on utilise deux substantifs. Il y a le soné, c'est celui qui est plein de haine, la shon sina. Et là, il y a le oyev, l'ennemi. Et oyev, ça veut dire celui dont on, quand on dit que les pays d'Israël seront soumis, c'est oyoyoy, ça veut dire terrible, quoi. Et ça, c'est Ishmaël. Et en vérité, il va y avoir il y a un changement pendant pratiquement tout le temps. C'est Ésav qui est le véritable ennemi et Ishmaël moins fort, quoi, si on peut parler comme ça. Mais il arrive un moment où c'est Ishmaël qui prend le dessus et Ishmaël, c'est pire que Ésav, dans certains psoukim. Alors c'est sûr que ça a des résonances sur aujourd'hui aussi, quoi. La caractéristique d'Ishmaël quand il est né, on dit que Ishmaël il est pré-Adam. On peut presque dire c'est un pré-Adam, c'est-à-dire c'est un sauvage, quoi. Ésav, il est chacham. Il est très intelligent. Et quand c'est très intelligent, c'est plus dangereux encore que la sauvagerie. Certains voulaient dire que Ésav, ça correspond à 33-45. C'est l'intelligence allemande, l'organisation, etc. Et Ishmaël, c'est la violence telle qu'elle se pratique maintenant et s'est pratiquée. C'est la violence tout court. Mais il y a pas, c'est pas organisé. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de. Chacun tire pour soi, quoi. Alors, quand est-ce que c'est super grave? C'est quand ils se mettent vraiment ensemble. Quand le moufti il va chez Hitler, quoi. Bon, ça c'est déjà on va d'abord regarder ce que y a une introduction du Ramban sur la paracha. Quelques mots d'introduction. Ramban dit la chose suivante. Nirteva paracha azot. Cette paracha de Vaishlach, elle a été écrite le hodia pour nous faire savoir qui hitzil akadosh baruch hu et avdo. Akadosh Baruch Hu a sauvé son serviteur, c'est-à-dire Yaakov. Vous voyez que je ne vais pas appuyer là, pour me le dire. Il a sauvé son serviteur Yaakov, au Goalo Miad Chazak Mimenu, et il l'a libéré de quelqu'un de plus fort que lui, Vaishlach Malach Vayatsileu. Il a envoyé un Malach. Et il l'a sauvé. Et donc, dit Ramban, le lamdenu od, ça vient aussi nous enseigner, Yaakov Avinu, il n'a pas compté sur sa tzidkout. Vishtadel beatzala. Il a essayé de se sauver en mobilisant tout son savoir-faire, toute sa force. Ça veut dire, ses efforts pour se sauver, il a fait des efforts, disons, comme on pourrait dire, Beder Hateva, naturellement. Il a appliqué, il s'est défendu naturellement. Il n'a pas compté sur les miracles ou s'est défendu naturellement. Et on voit que, j'ai appris ça de Rav Volbeck, que les avots, ils ont toujours fait très attention de respecter les lois de la nature. Les lois de la nature sont des lois faites par Hachem aussi. C'est pas la nature, c'est pas un dieu pour soi. Donc, si tu reconnais que ces lois de la nature sont l'expression de la volonté d'Hachem, alors évidemment, tu dois en tenir compte. Des fois, c'est même plus difficile de respecter les lois de la nature que les lois de la Torah. Et surtout, le problème, du point de vue de la Torah, c'est que quand quelqu'un a mobilisé toutes ses ressources naturelles et qu'il arrive à se sauver, alors il y a un énorme risque qu'il se dise, c'est moi qui me suis sauvé. Kochi v'otzem yadi, c'est ma force, mon savoir-faire, etc. C'est-à-dire l'orgueil est donc la pire des choses. Le grand problème, c'est de mobiliser toutes les lois naturelles pour se sauver, et quand on s'est sauvé, de reconnaître que finalement, ça n'a marché que parce qu'Hachem a bien voulu. C'est évident qu'il y a des paysans qui savent choisir les semences qu'il faut semer, ils savent quand il faut semer, ils savent comment il faut travailler, etc. Mais, par exemple, le paysan, il sait très bien qu'avec tout son savoir-faire, etc., mais si la pluie et le soleil sont pas là au bon moment, il n'aura rien. Il faut savoir que c'est comme ça dans les lois de la nature. Il y a les lois de la nature dont tu utilises, mais ultimement, c'est quand même toujours Hachem qui décide. Et simplement, il faut reconnaître ça. Et ça, c'était la grande difficulté que les fameux rois d'Israël, enfin, les rois, ils ont dit à la suite, les rois qui viennent après David, ces rois qui disent à Hachem, ils disent, David, il était capable de faire la guerre, c'est un grand stratège. Il gagnait la guerre grâce à son savoir-faire, etc. Mais il reconnaissait tout le temps que enfin, c'est Hachem qui a gagné la guerre. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Nous, si nous, on fait la guerre et on la gagne, on va s'attribuer le mérite de l'avoir gagnée. On ne va pas dire c'est Hachem qui a gagné la guerre. C'est pour ça qu'il y a cette histoire que vous connaissez certainement de ces rois qui disent à Hachem. Et il y a une guerre à faire. Il faut faire la guerre, mais dans toute la mesure du possible, je voudrais que ça soit clair que c'est pas moi qui fais la guerre. Et celui qui va aller le plus loin là-dedans, c'est le roi Hizkiyahou. Hizkiyahou, c'est Ézéchias pour les intimes. Et Hizkiyahou, il dit à Hachem, écoute, moi, la guerre, le seul moyen pour que je ne m'attribue pas le mérite de la victoire, c'est que je gagne la guerre pendant que je dors. OK. Alors Hachem a fait en sorte qu'il a gagné la guerre pendant qu'il dormait. OK, alors maintenant ça va, tu vas pouvoir dire que c'est Hachem qui a gagné la guerre. Il faut dire, Hazal enseigne que au temps du roi Hizkia, justement, tout le monde étudiait la Torah. Et même les petits-enfants, ils connaissaient les halakhot de Touma et de Tahara, etc. Tout le monde étudiait la Torah. Et Hizkia, il a été presque le Mashiach. Il était capable de devenir le Mashiach. Et le peuple était capable de devenir le peuple du Mashiach. Et ça n'a quand même pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Hizkiyahou a dit, c'est extraordinaire ce qui nous est arrivé. On a gagné la guerre pendant qu'on dormait. Beaucoup, il a fait un miracle. Extraordinaire. Oui. Mais comment ça se fait qu'on a mérité un miracle pareil? La seule raison pour laquelle on peut avoir droit, si on peut parler comme ça, un miracle pareil, c'est l'étude de la Torah. Ben effectivement, tout le monde étudie la Torah, donc c'est ça la raison pour laquelle Hachem a fait ce miracle. Voilà. Si c'était arrêté là, c'était parfait. Mais il s'est posé une question, mais comment ça se fait que dans notre génération, tout le monde a étudié la Torah? Alors la réponse, c'est que Hizkiyahou, il a planté une épée sur le devant le Beth Amikdash, et il a dit, tout celui qui n'étudierait pas la Torah passerait au fil de l'épée. Hein? Donc d'une certaine manière, c'est grâce à moi que tout le monde a étudié la Torah. C'est fini. Il n'est plus Mashiach. Il n'est pas capable, comme on dit, il n'a pas chanté, ça veut dire ça n'a pas chanté, alors la louange d'Hachem n'est pas sortie. Parce qu'il s'est attribué le mérite. Alors tout ça est vrai. C'est vrai qu'il y est pour quelque chose. Mais ça a marché parce qu'Hachem a voulu que ça marche. J'aurais dû reconnaître que c'était Hachem. Il n'est pas devenu ma chère à cause de ça. Donc, c'est vrai que c'est fondamental de tenir compte des lois de la nature. D'accord, on voit toujours que quand on regarde l'analyse, on voit très bien que la Torah, elle est en phase avec la nature. Et quand on risque de ne pas être en phase, on va se décaler. D'accord? Le fait de faire une année, cette fois en 19 ans, on va avoir une année avec 13 mois pour rattraper le décalage entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Pourquoi est-ce que c'est obligé? Parce que c'est marqué que Pessah, ça doit avoir lieu de Chodesh à Aviv. Pessah doit avoir lieu dans le mois du printemps. Le mois du printemps, c'est le mois de Nissan. Donc on est obligé de faire en sorte que le mois de Nissan, ça soit à peu près avec le printemps. Donc c'est pour ça qu'on corrige le mois qui est avant le mois de Nissan, c'est-à-dire le mois d'Adar. Éventuellement, on va le doubler si jamais on s'aperçoit que la nature n'est pas en phase. On va avoir besoin de l'orge pour apporter le corban à Homer. D'accord? Et là, on voit, l'orge n'est pas mûre. Alors, il faut ajouter un mois. On ajoute un mois. Etc. Donc, ça, c'est une première chose. Et c'est ça le grand problème d'Ibn Israël. C'est ce qui s'est passé dans la transition entre le désert et Eretz Israël. Dans le désert, tu ne peux pas te raconter que c'est toi qui. C'est rien du tout. Dans le désert, tu manges la manne. Tu bois de l'eau du puits de Myriam et tu as un anékavot qui te protège, tu peux pas te raconter des histoires. Tu vois bien que tu dépends complètement d'Hachem. Mais il fallait entrer en Eretz Israël. En Eretz Israël, tu dois planter des arbres, tu dois labourer, tu dois semer, tu dois récolter, etc. Tu dois t'occuper de faire les choses normalement. Et avec tout ça, reconnaître que c'est Hachem qui guide les choses. Reconnaître Hachem là-dedans. C'était ça l'extrême difficulté. Parce que quand ça marche bien, on oublie Hachem. Souvent, on se rappelle d'Hachem seulement quand ça marche pas. On commence à supplier Hachem de faire en sorte que ça marche. Yaakov, il s'est préparé à la rencontre avec Esav. Cette rencontre avec Esav, avec ce qu'il pense de ce que Esav doit penser, Yaakov pense que Esav, il va vouloir le tuer. Alors, il va prendre des mesures pour lutter contre Esav. Il va partager ses gens de camp, etc. Et puis, il va appliquer la méthode juive, en fait, ce qui est devenu la méthode juive, c'est à juste titre. Il va lui envoyer des cadeaux. Enfin, d'abord, il va prier. Il va envoyer des cadeaux. Il va se préparer à la guerre. Va bien? Il va envoyer des cadeaux. Il va se préparer à la guerre. C'est trois choses naturelles, en fait. Est-ce que vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît? On s'est toujours débrouillé comme ça. On payait, il fallait payer. Et les goyim, ils avaient très bien compris qu'il fallait payer. Le système de kidnapping qui était une industrie chez les goyim. Vous savez, les juifs, on leur prend des prisonniers, ils payent. Ça continue avec ça aussi maintenant. C'est hein. La guerre, mais. Tu peux perdre la guerre, peu importe si tu as des prisonniers, des otages, les juifs vont venir payer. Comme ça qu'on a procédé comme ça. Il y avait des moments probablement où dans l'histoire, en Pologne, en Russie, il y avait des décrets qui ont été pris contre les juifs, pas du tout parce qu'ils avaient l'impliquer, ils voulaient obligatoirement les appliquer. Mais ils savaient très bien qu'on prend des décrets anti-juifs, les juifs vont venir, ils vont payer. Hein, il n'y a pas si longtemps, on avait dit qu'on ne pouvait plus faire la Shrita en Pologne. Quand ils ont sorti ça, je me suis dit, tiens, ils recommencent. Et finalement, ce n'est pas sorti le décret, ou je ne sais pas ce qui se passe, on fait la Shrita en Pologne. C'est quand même les juifs américains, ou je ne sais pas qui. On a dû payer, sûrement. Voilà. Sûrement. C'est aussi avantageux pour eux parce que c'est un marché, etc. Presque captif, quoi. C'est pas tellement nombreux, hein, mais quand même. A sûrement payé. Donc, ça, on a appris ça de Yaakov. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne peut pas faire autrement. Il faut être prêt à tout. Il faut prier. Il faut se préparer à la guerre, le cas échéant. Il y avait des situations, la guerre, on ne pouvait pas la faire. la plupart du temps. Aujourd'hui, on peut faire la guerre, mais avant, on ne pouvait pas faire la guerre. Ils disent que quand, à l'époque romaine, bon, il fallait aller discuter avec les Romains pour, justement, pour adoucir un peu les conditions de la domination romaine en Judée, quoi. À Gravina, quand c'était celui qui allait discuter à Rome, avant de partir à Rome, il lisait la Parsha de Vaishlah, sur le début de Vaishlah. Pour se mettre dans l'ambiance, en quelque sorte, pour se faire inspirer. Il y aurait aujourd'hui les gens qui ont affaire avec les goïms, qui doivent parler au nom du clan Israël et qui ont affaire avec les goïms, ils devraient lire cette paracha. Alors, dans les difficultés qu'il y a au début de la paracha, c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim. Paracha commence Vaishlach Yaakov Malachim, Lefanav, El Esavachiv, Arza Seir, Sdeedo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov a appris que Esav n'était pas loin de lui. Voilà, il est en train de passer, pas loin de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Ben, il envoie des éclaireurs, il envoie des gens pour faire le contact avec Esav. Chazal disent, mais ça va pas. Ah, une fois qu'il a le contact avec Essa, il a peur. Essa va venir, il va me massacrer, ça. Khazal dit, tu vas tirer l'oreille du chien, puis après tu te plains que le chien il veut te mordre. Laisse-le passer. Essa, il n'était pas du tout en train de venir chez Essa, chez Yaakov. S'il n'avait pas bougé, enfin, s'il n'avait pas dévié de sa trajectoire, Yaakov, pour aller en direction des Sables, jamais ils se seraient rencontrés. Et Sables, il était là avec les 400 soldats, etc. Visiblement, Sables, c'était un chef de gang, de bande, très puissant. S'imposait là où il passait, c'est tout. Et on ne comprend pas pourquoi Yaakov est allé le chercher. Le problème, c'est que on dit que cette paracha, elle vient nous enseigner le rapport, comment on doit se comporter dans notre rapport avec l'égoïsme. Mais cette paracha, elle n'a eu lieu que parce que Yaakov est allé chercher Esav. Si Yaakov n'était pas allé chercher Esav, on n'aurait pas eu ce modèle. Et le galout, on l'avait, parce que le galout, après certains, on le doit à cause d'Abraham Avinu. Pourquoi est-ce que on a dû aller en galout en Égypte? Il y a plusieurs explications, mais une des bonnes explications importantes, en fait, c'est parce que quand Abraham a voulu Il est allé libérer Lot. Vous vous souvenez, dans la guerre des quatre rois contre les cinq rois, Lot, qui était un habitant de Sdom, il a été fait prisonnier, parce que le Sdom était du côté de ceux qui ont perdu, il a été fait prisonnier. Et quand ils ont vu que c'était Lot, le neveu d'Abraham, ils se sont dit, les Goïms se sont dit, ah, on va mettre Lot en avant, dans la simplice qu'on met en cage, je ne sais pas, comme ça. On va faire savoir à Abraham que Lot est prisonnier, il va pas rester les bras ballants, il va venir, il va se faire la guerre contre nous, et maintenant on est beaucoup plus fort que lui, on va enfin pouvoir le tuer, quoi. Donc ça sera fini avec les remontrances d'Abraham avec ses théories, etc. Bon, ouais. Et effectivement, Abraham est allé, quand il a appris que Lot était prisonnier, il est allé pour délivrer Lot. Alors c'est marqué que, dans Hazan, c'est marqué que il avait 318 élèves dans son collège, Abraham. Et il les a mobilisés pour aller faire la guerre. Et on lui reproche, justement, d'avoir enlevé des gens qui étaient à l'étude pour aller faire la guerre. C'est à cause de ça que les descendants d'Abraham vont être esclaves en Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ça veut dire que ce reproche qui est fait à Abraham, il fallait bien aller avec, qu'est-ce qu'il a, il devait aller faire la guerre tout seul, Abraham. Il a 318, c'est pas terrible, quoi. Mais tout seul. Mais en vérité, pourquoi est-ce qu'on le lui reproche? Parce que, justement, il aurait dû faire la guerre tout seul. S'il est allé faire la guerre tout seul, il aurait installé le clan Israël à un niveau plus élevé. Il aurait mis le clan Israël à une hauteur qui est bien plus haute que celle que, à laquelle on est de facto. Je veux dire, mais ce reproche-là, il tient pas debout, quoi. Alors on explique que ce reproche, c'est un reproche qui est fait par ce qu'on appelle la Midat Hadin. La Midat Hadin, la mesure de justice, enfin de rigueur, c'est une mesure qui laisse rien passer, absolument rien passer. Quand je vois créer le monde, c'est marqué qu'il voulait créer le monde avec la Midat Hadin. Il a vu que ça tiendrait pas, donc il a ajouté la Midat Harachamim, la Midat de tendresse. Mais ça veut dire, cette idée-là, elle vient dire que de façon idéale, il faudrait essayer de vivre au niveau de la Midat Hadin. Mais au niveau de la Midat Hadin, ça veut dire que aucun écart est permis, tout est sanctionné. Alors ici, par exemple, c'est un écart qui est sanctionné. Pourquoi tu aurais pu faire mieux? Parce qu'en réalité, comment est-ce qu'il a fait la guerre, Abraham, contre les rois? Il n'est pas allé avec des tanks, etc. Il a pris de la poussière, il a jeté la poussière dans la direction des ennemis. Il a pris de la paille, il a jeté la paille dans la direction des ennemis. Ce qui est tombé sur la tête des ennemis, c'était effectivement, aujourd'hui dans notre langage, on dirait, c'était des bombes et des, etc. Mais lui, il s'est pas salé les mains avec des armes. Il a envoyé de la poussière et de la paille. Et ce que eux envoyaient, les armes, chez lui, ça tombait souvent de poussière et de paille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu devais faire, Jeter de la poussière et de la paille, à la limite, tu aurais pu le faire sans te bouger. Puis, tu n'avais pas besoin de te déplacer. Il fallait jeter la poussière en l'air et de la paille en l'air, quoi. Pour ça, tu n'as pas besoin de soldats. Finalement, tu n'as pas eu besoin de soldats. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les soldats? Ils ont jeté de la poussière avec toi. Fallait avoir une certaine quantité de poussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham était à un tel niveau qu'il n'avait pas, effectivement, il a compris qu'il n'allait pas se salir les mains avec des armes, et qu'il fallait faire quelque chose. Alors, il a fait les gestes qu'il fallait faire pour les gestes de la guerre, les gestes qui vont libérer Lot. Ça, tu pouvais le faire sans mobiliser sans sortir les gens de leur même. D'accord? C'est tout. Tu ne l'as pas fait. Si tu l'avais fait, le clan d'Israël se serait situé encore plus haut. Puisqu'on est à la hauteur où toi, tu as mis le clan d'Israël. C'est toi le patriarche, donc c'est toi qui as, d'une certaine manière, fixé la barre. Tu pouvais mettre la barre plus haut. Ah, et on peut toujours mettre la barre plus haut. Oui, effectivement. C'est ce qu'Hachem demande. En vérité, l'homme, c'est presque un dieu. Mais cette distance qui est tellement petite, c'est en vérité infiniment difficile à franchir. Donc tu peux sans arrêt t'approcher, t'approcher, t'approcher. L'important, c'est pas de pas se prendre pour Dieu. Mais rien ne t'empêche d'agir de façon encore plus élevée, quoi, finalement. Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce qu'il avait besoin? C'est un manque de confiance d'avoir mobilisé? Je ne sais pas comment il faut l'analyser. Mais en tout cas, c'est considéré comme une erreur de la part d'Abraham Avinu. Et cette erreur, elle a coûté cher. Ça coûte l'exil égyptien.
Rav, pourquoi il ne l'a pas fait puisqu'il avait fait
Oula, ça y est. Oula.
Allô?
Il l'a pas fait, parce que, ben justement, ça lui est pas venu, ou bien ça lui est pas venu à l'idée, ou bien il a pensé qu'il fallait un peu de la mise en scène de la guerre, quoi. Il fallait mobiliser. La halakha, elle est que dans certaines circonstances, il faut mobiliser. Mais c'est pas que c'était, si vous ne savez pas que c'était faux. Et d'une certaine manière, pour nous, c'est un modèle, mais en quoi c'est un modèle? Nous, quand on fait la guerre, on est bien obligé de. Ben personne n'a essayé, je ne sais pas ce que ça donnerait. On n'est pas à la hauteur. Mais si on le faisait en pensant que c'est ça qu'il faut faire, ça devrait marcher, non? Sauf qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de le penser. Ce serait des singeries si nous on faisait ça. Parce qu'on n'est pas à la hauteur. Mais lui, il était à la hauteur, mais on lui en fait le reproche. Mais peut-être on nous ferait le reproche à nous aussi de faire la guerre d'une certaine manière. Peut-être qu'il faut la faire autrement. Peut-être que c'est très important de comprendre que l'étude, les élèves de Jacob, d'Abraham, la guerre, elle se gagne avec eux, étudiants. Si ça allait ensemble, s'il les avait laissés, donc il aurait montré qu'il va gagner la guerre avec une composante étudiante, en fait. Ça, on ne le voit pas, parce qu'il les a mobilisés. C'est marqué que Yaakov Avinu, il l'a envoyé en direction de Esav, son frère. Il a envoyé Malachim. Il y a une discussion pour savoir si c'est Malachim, c'était vraiment des anges, ou bien est-ce que Malachim, ça veut dire un envoyé. Parce qu'en fait, les anges, ce sont des envoyés d'Hachem. Mais est-ce que c'est les envoyés purement spirituels, quoi? Ou est-ce que c'est les envoyés vraiment, envoyer des gens? Rachid dit, Malachim, Mamash. Vraiment les anges. Alors le problème, c'est que si ce que Jacob a envoyé, ce sont des anges, alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette paracha, à nous? Nous, moi, je peux difficilement envoyer des anges. Donc, en quoi elle est un modèle? J'ai une paracha qui est censée le modèle de donner le modèle. Comment je dois traduire ce modèle? D'accord qu'il faut traduire, je comprends. Mais justement, Malachim Mamash, c'est intraduisible pour moi. Donc, c'est un problème. En quoi est-ce que nous, on a. Qu'est-ce qu'on a à voir, nous, avec des Malachim? Rien à voir.
Déjà, on ne sait pas
Alors,
trop ce que c'est qu'un on sait pas trop ce que c'est qu'un malachim.
parle un peu trop fort, tu vois. Il faut réduire un peu le. Ça résonne, alors.
Oui, il y a un écho.
En vous parlez, oui. C'est. Ah, tu peux descendre, hein, ce truc-là en bas. Oui. Parlez maintenant, Bernard.
Ben, je disais déjà,
Ouais, c'est mieux, hein? C'est mieux. Ouais. Alors, mon maître,
d'habitude.
le Rav Volbe, il expliquait les choses de la manière suivante. En fait, nous, on croit qu'on n'a rien à voir avec les malachim. Mais on a à voir avec les malachim. Quand vous entrez dans une enceinte, dans une salle, dans une maison. Il y a certaines maisons, quand vous entrez, vous sentez, il y a une bonne ambiance. Et d'autres maisons dans lesquelles vous entrez, il n'y a pas une bonne ambiance. En tout cas, vous ne ressentez pas l'ambiance comme une ambiance favorable. C'est désagréable, c'est froid alors que ça a la même température que l'autre. C'est froid, on ne se sent pas vraiment à l'aise. Il expliquait que quand on agit, on fait des choses. En même temps que qu'on agit, il y a quelque chose de spirituel qui se crée en même temps. On va dire ça par exemple dans les mitzvot. On dit que quand quelqu'un fait une mitzvah, il crée disons, on va le dire comme ça, un malheur positif qui va l'accompagner jusqu'à y compris au moment du jugement dans Olam HaBa. Et s'il fait une avéra, il crée un malheur négatif qui lui aussi va l'accompagner et qui va l'accuser quelque part. Alors, quand on agit, c'est créature spirituelle, si vous voulez. C'est ça l'ambiance. L'ambiance, c'est la résultante de la présence de cette spiritualité, si on peut parler, qui crée l'ambiance chaude, donc sympa, etc., joyeuse ou bien triste, etc. Ça vient de ce que les gens, alors maintenant, est-ce que ça imprègne les murs ou je sais pas, comment je sais pas, Mais voilà, l'ambiance, cette notion d'ambiance, c'est quelque chose qui peut se dire en termes de malachim. Ça veut dire, c'est à nous de créer une ambiance, de créer faire en sorte que on se sente bien. Se sentir bien, chacun va le définir peut-être un peu différemment. Qu'est-ce qui s'appelle se sentir bien? Mais bon, on parle de se sentir bien dans le cadre de la Torah. Enfin, se sent. C'est ça, il a envoyé des malachim. Oui, il a envoyé des malachim. Mais ça nous concerne, nous aussi. Le problème, c'est. Qu'est-ce qu'on rayonne, en fait? Qu'est-ce qu'on rayonne? Il y a des êtres qui rayonnent positivement. Y en a d'autres, au contraire. Et puis, il y a évidemment toutes sortes de degrés. Donc, c'est où tu rayonnes la peur, est-ce qu'ils vont te prendre. Ils vont te percevoir comme quelqu'un qui veut les rouler, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est lâche, etc. Qu'est-ce que tu rayonnes, en fait, dans certaines circonstances? Ça existe par exemple dans le zen, ça existe aussi comme ça. On dit des guerriers, enfin des gens qui s'opposent dans le zen. En général, ils n'ont pas besoin du tout de s'opposer. Ils sont l'un en face de l'autre. Au bout d'un moment, il y en a un qui sait qu'il a perdu. Parce qu'il a senti que c'est l'ambiance de l'autre qui a gagné. Il a senti qu'il n'était pas capable de produire. Ça existe. Alors peut-être qu'Abraham Avinu, il a pas senti qu'il était capable de vivre, de se placer à ce niveau-là ou sans mobiliser. Mais ça peut être compté comme un défaut. Tu pouvais faire mieux. Tu aurais installé le clan d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que à cause de ça, on est descendu en Égypte? Ça veut dire que au niveau où tu t'es placé, il fallait pour les Bnei Israël, tes descendants, il fallait qu'ils passent par, par l'exil égyptien. Si on s'était placé plus haut, on aurait peut-être fait l'économie de l'exil égyptien, on aurait peut-être, ou bien on serait resté un jour. Personne, la notion d'exil, on voit très bien que ça a été annoncé comme étant évidemment 430 ans ou 400 ans. On n'est pas resté aussi longtemps. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas, disons. Rizal, il a dit qu'on n'aurait pas pu rester plus longtemps. Et du coup, il faudra le rattraper. C'est ce qu'on est en train de faire. Je sais pas. Mais si on s'était placé à un niveau plus élevé, on aurait pu faire l'économie de tout ou partiel ou de cet exil égyptien. Mais le monde aurait été changé, effectivement. Là aussi, de même que on reproche à Avraham Avinu d'avoir passé par la mobilisation de ses élèves, on reproche à Yaakov Avinu d'être allé chercher Essav. Et donc, on pouvait faire l'économie de la rencontre avec Essav. Bien sûr que quand on regarde avec cette histoire de la rencontre avec Ésaü, ça a permis à Yaakov de lutter avec le fameux ange, homme, ou je sais pas quoi, Ish, dont certains disent que c'était le dieu d'Ésaü, quoi, quelque part, le malard d'Ésaü. Alors, on n'aurait pas, quoi, il n'y aurait pas eu cette lutte? Non, peut-être pas, c'est pas nécessaire. Peut-être qu'on aurait pu le vaincre différemment. Si Chazal font le reproche à Yaakov, c'est qu'ils pensent qu'il aurait pu faire autrement. Mais s'il avait fait autrement, si on n'est pas rencontré Esav, alors il n'avait pas besoin de rencontrer l'ange d'Esav, etc. Bon, c'est vrai, tout aurait été changé. Alors c'est bien sûr que c'est un modèle pour nous, mais c'est un modèle pour nous parce que nous sommes les descendants de ceux qui ont agi de cette manière-là, Abraham comme ça et Jacob comme ça, etc. Puis c'est pas fini parce que il a envoyé ses braves gens, il a envoyé des gens, d'abord des malachim, et ces malachim, ils reviennent et ils lui disent Essav, il vient maintenant vers toi. Et il vient avec 400 hommes, 400 c'est beaucoup, 400 hommes armés, etc. Et du coup, va Yira Yaakov Meod. Yaakov, il a eu très peur. Va Yitzer lo, va Yachatzeta Masherito, etc. Il était angoissé, littéralement. Ensuite, il a pris des mesures, il a partagé les gens en deux camps, etc. Mais qu'est-ce qu'il leur avait dit quand il a envoyé ces gens, il leur a dit, vous allez aller chez Sav. Et alors il leur dit, Kotomrun l'Adoni les Sav. Voilà ce que vous allez dire à mon seigneur, à mon maître, et Sav. Il lui donne il se présente par rapport aux envoyés, que ce soit des malachim vraiment, il leur dit, vous placez, ils vont pas lui dire, ils vont dire, ainsi vous allez parler la Adonis la Esav. Ça veut dire, vous allez prendre la posture de quelqu'un qui vous parlez au nom de quelqu'un qui parle à son maître. Ne venez pas lui dire d'égal à égal ou etc. Non. Je vous ai dit que vous parliez à Essav qui est mon maître, mon seigneur littéralement. Adonis, c'est mon seigneur. Et Yaakov va donner du mon seigneur, mon seigneur, mon seigneur à Essav. Et dans le Midrash, les Chachamim, il s'arrache les cheveux. Pourquoi il lui a donné tout ça? En disant qu'il est mon Seigneur, il lui a donné un pouvoir sur lui. Et donc, nous, on a plein d'ennuis avec Esav, qui sont la résultante du pouvoir que Yaakov a donné à Esav contre lui. Il lui a donné du pouvoir contre lui. Adonis, 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 et que je me prosterne, etc. Ça va pas, non? Chazal sont très très critiques à l'égard de Yaakov. Et la vérité, c'est que c'est difficile de comprendre, je ne sais pas vraiment comprendre pourquoi Yaakov a fait comme ça. Pourquoi Yaakov a choisi cette posture en quelque sorte. Parce qu'en même temps, il lui donne du Adoni, mais ensuite il lui raconte, vous allez aller chez Esav, je ne l'ai pas vu depuis 34 ans, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous lui direz que j'ai dit que Im Lavan Garti, Vaechar Adat. J'ai habité avec Lavan et ça m'a pris tout ce temps. C'est pour ça que j'en suis là, quoi. Et Vahili, Shor Vachamor, Son, Eved, Shifra, Veshlecha Lagid la Adoni Limtsochen Benecha. Et il lui dit, tu sais, il dit, j'ai les taureaux, j'ai les ânes, j'ai du petit, du gros bétail, j'ai des esclaves. Il est en train de lui raconter combien il est riche, quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que ça peut bien lui faire à Essav, qu'il n'a pas vu pendant 34 ans, lui raconter qu'il a du taureau, j'ai des taureaux, j'ai des ânes. Qui s'en fait? Qu'est-ce que tu racontais? Ce qu'il raconte. Je comprends rien. Hein? Alors, Pinaï, on va regarder. Pourquoi il dit qu'il a des taureaux et des ânes? Pourquoi il dit pas qu'il a aussi des chameaux? Alors, il y en a qui expliquent que le taureau, c'est la bête qui est complètement permise à la consommation parce qu'elle a les deux simanim, les sabots et le rumin. L'âne, il n'a aucun des deux simanim. Ni le sabot fendu, ni le rumin. Donc, on n'a pas cité le chameau parce que le chameau, il a un des simanim mais pas les deux. Donc, comme il voulait dire, c'est très clair, j'ai du complètement permis, j'ai du complètement interdit. Je fais la différence absolue, j'ai l'absolument permis et l'absolument interdit, je sais exactement, c'est clair pour moi, complètement clair. Y a une autre lecture qui dit que le chor, le taureau, c'est l'emblème de la tribu de Yosef. Dans les brachot, il est appelé Chor. Et le Chamor, c'est Issachar. Parce qu'Issachar, il est Issachar Chamor. Il accepte la charge, etc., le Issachar. Donc il veut lui dire avec ça, comme vous savez, on n'a pas le droit de labourer, enfin d'atteler ensemble un taureau, enfin un bœuf, si vous voulez, un âne, c'est interdit. C'est considéré que c'est interdit, c'est parce que c'est une paire une paire tméa, c'est le côté de la touma. Et Yaakov lui dit, moi j'ai la même paire, mais j'ai la paire du côté de la kdusha. Donc surtout, ne t'imagine pas que tu vas pouvoir me faire du mal. Tu penses que tu peux faire du mal. Tu peux rien faire. Je suis inattaquable. Donc, à la fois, il lui donne du Adoni, ensuite, il lui dit, surtout, t'imagines pas que tu vas pouvoir faire la guerre contre moi. Je suis inattaquable. Tu pourras pas. Et ça, on ne sait pas quel état d'esprit il est pour l'instant. Alors, eux, ils reviennent. Ces malachim qu'il a envoyés, ils reviennent, ils font leur rapport, et il dit, on est arrivé chez lui, là, chez ton frère, ils savent. Lui vient aussi dans ta direction, avec 400 hommes, que je vous ai dit. Yaakov a très peur. Et à ce moment-là, Vayomer Yaakov est pris. Au verset 10, Il s'adresse, Elokei Avi Abraham, Elokei Avi Yitzhak, Dieu de mon père Abraham, de mon père Yitzhak, Hachem, le tétragramme, à Omer Elai qui m'a dit, c'est toi qui m'as dit quand j'étais chez Lavan, Chouv, Le'artzecha, Le'moladtecha, retourne dans ton pays, là où tu es né, Ve'etiva, Imach. Et je te ferai du bien. Et là, Yaakov dit quelque chose dont on a déjà parlé. Il dit un verset qui est très connu. Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet asher asita et avdecha, ki v'makli avarti et hayarden hazeh ve'ata haiti lishnei machanot. Il dit, j'en suis petit de toutes les bontés, de toute l'émette que tu as pratiquée avec moi. Parce que je suis en train de revenir là maintenant. Ce chemin, je l'ai fait dans l'autre sens. Quand j'étais dans l'autre sens, j'avais mon bâton. J'ai passé le Jourdain en question avec en tout et pour tout mon bâton, puisque j'avais été complètement dépouillé par le fils d'Ésaü, oui. Et maintenant, j'ai deux camps. Sauve-moi, Atsileni, sauve-moi s'il te plaît, Miyad Achi, Miyad Ésaü. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Ésaü. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il va se présenter. S'il se présente comme étant mon frère, sauve-moi, c'est un danger. Danger d'assimilation, danger de. Je ne veux pas être trop copain avec lui. Je ne veux pas de rapport fraternel avec lui. Miyad Esav, je ne veux pas non plus. Maintenant, s'il est Esav, mon ennemi, aussi je suis en danger. Il y a Réanochioto. Je le crains. Je crains qu'il ne vienne et que. Il va nous massacrer, quoi. Et tu as dit que tu me ferais du bien, que j'aurais une très grande descendance, comme le sable de la mer. Etc. Et puis à ce moment-là, il prépare des cadeaux, énormément de cadeaux. Et il va envoyer des gens sans arrêt avec des cadeaux et encore des cadeaux et encore des cadeaux. Et chaque fois, les gens, ils arrivent et que me prosterne, Adoni, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, ça s'arrache les cheveux. Bon, ensuite il a, bon, on va pas refaire de l'histoire, il a fait passer le Yavok, la petite rivière là, à sa famille. Et puis ensuite lui il est revenu en arrière. Comme vous savez. Et il est resté tout seul. Et il y a un homme. Il y avait Ish, un homme, qui a lutté avec lui jusqu'à l'aube. Et quand cet homme a vu qu'il n'arrivait pas à gagner contre lui, alors il l'a touché à la hanche, il lui a déboîté un peu la hanche. Et cet homme-là, ce Ish, il a dit à Yaakov, Shalcheni, renvoie-moi. Parce que l'aube est arrivée. Et alors Yaakov lui dit, je t'enverrai pas. Tant que tu m'auras pas béni. Alors là, l'homme, ange, lui a dit, c'est quoi ton nom? Il va appeler Jacob. Alors il lui dit, tu t'appelleras plus Jacob. Ce sera plus ton nom. Tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté, tu as gagné avec Elohim et avec les hommes. Tu as gagné. Alors du coup, Jacob lui demande, mais dis-moi, donne-moi ton nom à toi. Alors il lui a dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Il n'a pas répondu. Mais il l'a béni là-bas. Voilà. Alors, cette Ish là, c'est pas marqué Malach, ouais, c'est marqué Ish. Ish, c'est un homme.
Hachem ish milchomo.
Oui, mais
Hachem ish
c'est une
milchomo.
image. C'est une image pour dire que Hachem peut apparaître comme un homme de guerre. Parce que c'est lui qui a fait la guerre. La guerre contre les Égyptiens au passage de la mer. Hachem ilachem lachem, v'atem tafarishoun. Hachem fera la guerre pour vous et vous taisez-vous. Quand l'homme ange lui a dit, laisse-moi partir, il lui a même dit, renvoie-moi, en fait. Shalcheni lui a dit, renvoie-moi parce que, Rashi ramène, Tsarichani lomar shira beyom. Quand il fait jour, je dois dire shira. Je suis un ange qui doit chanter les louanges d'Hachem. Alors il lui dit, je ne te laisserai pas partir ou je ne te renverrai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Alors regardez ce que dit Rashi sur ce passouk. Rashi dit, je ne laisserai pas partir, kiim berachtani. Regardez Rashi, odeh li ala brachot. Shebarcheni. Avi, chez Esav me harer alehen. Il lui dit, reconnais-moi les brachot que mon père m'a données. Qu'elles sont vraiment à moi. Parce que Esav, il le conteste. Alors, en quoi est-ce qu'il lui a répondu à la demande? Il lui dit, reconnais que j'ai les brachot que mon père m'a données sont vraiment à moi. Alors, Rashi dit que quand il lui dit, Lo Yaakov, ton nom ce ne sera plus Yaakov, mais Israël, Rashi dit, Lo Yaakov, c'est-à-dire, Lo Yomer Od, She Abrachot Baulecha, De Akava, De Remaya. Yim Bishara veGilui Panim veSofra sheHaKadosh Baruch Hu Nigle Alecha veBetel uMachriv Shimcha veSham Hu Mevarchecha veAni Sham Eyeh veOdeh Lecha Aleihem. ce qu'il lui dit. Il lui dit, ton nom, Yaakov. Yaakov, c'est, comme vous savez, c'est lié au talon, c'est-à-dire. Alors, on va pas, on dira plus que les brachot se sont arrivés de façon tordue et par ruse, mais on dira qu'elles sont arrivées de Srara, Israël. D'accord? Srara, c'est, elles sont arrivées comme à un prince, comme, voilà, sont vraiment arrivées à toi comme elles, comme un couronnement, comme attestant ta puissance. C'est-à-dire, les deux noms qu'il a mentionnés, l'ancien nom, Jacob et Israël, c'est une façon de dire que désormais les brachot, elles ne sont pas considérées comme si tu les avais piquées comme ça, de façon tordue, mais au contraire, de façon complètement droite. Yachar. Yachar ou Sarah, comment.
Yachar
Non,
et Sarah, c'est la même.
non? C'est pas la même chose. Yachar, il y a un seul. Peut-être que Yachar, Sarah, c'est la domination, être un chef, un prince, etc. Et on dit que Israël, c'est Yachar, mais là, Rachid dit Sarah. Et lui dit, ce nom-là, que je te dis que ça sera ton nom, c'est pas lui qui décide. Il dit, Hachem, il va te le dire plus tard, et je serai là, à ce moment-là, je te bénirai, quoi. Ça veut dire que, quelque part, c'est quand on dit qu'il est l'ange d'Essav, ça veut dire, il veut que Essav lui reconnaisse les brachot.
C'est pour ça qu'il lui demande de le bénir.
Pardon?
C'est pour cette raison qu'il lui demande de le bénir.
Oui, je veux la bénédiction. L'autre, en tout cas, il a compris ça. Il a compris que ce qu'il voulait, c'est que la bénédiction, ce soit la reconnaissance de ce que ces brachot sont vraiment à lui.
Donc, depuis le début, il pense qu'il se bagarre avec Essab.
Oui, il pense que ça, c'est un guerrier, il va faire la guerre. Et il s'est préparé à la guerre. Mais la nuit précédant la guerre, il est allé chercher le parim ktanim, il est retourné chercher les petits ustensiles dont on dit qu'il les avait oubliés. Bon, c'est ce qui a permis qu'il soit tout seul et que la lutte puisse avoir lieu avec ce ish, cet ange-là. Donc il lui a donné un scoop. Il a dit, tu vas t'appeler Israël et je t'explique ce que ça veut dire Israël par rapport à ce que tu es en train, ce que j'ai compris de ce que tu me demandais. Vous voulez, la bracha, c'est une amplification. Alors, Yaakov, il dit, les brachot, je les ai reçus, mais un peu de façon tordue, quoi. Alors maintenant, je voudrais bien qu'elles prennent toute la place. Qu'elles me soient vraiment reconnues, qu'elles puissent vraiment fonctionner, parce que, comme il va dire à son frère, ben, rien n'a fonctionné de ces brachot. J'ai pas eu les brachot que mon père m'a donné, elles n'ont pas été activées. Alors, il dit à Essav, t'as pas de raison de m'en vouloir puisque ça m'a pas marché, quoi. Mais maintenant, il dit, mais je voudrais bien que ça marche. Je te demande, visiblement, il a compris que lui, il le pouvait, que ce malheur. Alors, évidemment, s'il est le malheur d'Essav, ça veut dire que, en haut, dans le monde d'en haut, on reconnaît que les brachot, elles sont arrivées là où elles doivent arriver. Yitzhak lui-même, il dit tout de suite quand il comprend que Esav, que c'est Yaakov qui a pris les brachot, etc. Normalement, il dit, mais qui c'est qui est venu, qui a pris? Il devrait terminer, je crois qu'on l'a dit dans le chiot la semaine dernière, il devrait terminer, mais alors ses brachot, elles valent rien pour lui, quoi. Et du contraire, Gambaourki. Ok, j'ai compris. Qu'il soit béni. Alors, Essa, finalement, ça se passe très bien. Alors, peut-être qu'il a compris quand il a dû s'acheter un nouveau dentier, il a dû comprendre que, bon, c'est visiblement, je ne pourrais pas le tuer comme ça. Yaakov lui-même, quand on dit qu'il a eu très, très peur et qu'il était angoissé, Rashi ramène qu'il avait peur, il avait autant peur de tuer que d'être tué. Parce qu'il était aussi fort que Essa. Quand il est arrivé au puits là-bas, il a pris cette pierre là que il fallait que tous les bergers devaient se rassembler pour pouvoir la bouger. Et lui, il l'a bougé. Rachid dit, comme on enlève un bouchon d'une bouteille de champagne, quoi, il n'a pas de champagne, bien sûr. Hein?
C'est Rachid qui a dit ça.
C'était champagne.
Oui.
Oui, je crois que ça n'existait pas à son époque, le champagne. Je crois que c'est relativement tard, par exemple, quand la méthode champenoise de fabriquer du. Voilà, on va s'arrêter là.
Merci.
Merci, Rav.
Merci, Rav.
Merci,
Rav.
Marie. Merci, Chavez.